Nous allons parler aujourd'hui, Guillaume, des lettres que Paul a envoyées à la communauté chrétienne qui était installée en Thessalonique, qui est au nord, effectivement, donc, de la Grèce. Il a donc annoncé la bonne nouvelle aux Juifs, aux Grecs qui étaient là, mais les Juifs, évidemment, se sont fâchés contre Paul et de ce qu'il annonçait. Ils sont manifestés contre Paul qui a dû fuir la ville. Et il est allé s'installer à Corinthe, qui est cette fois en Grèce, au sud. Et il est rejoint quelque temps après par, son collaborateur, Timothée, qui lui était resté dans la Thessalonique, et celui-ci lui fait un compte rendu très positif de la communauté qu'il avait laissée donc en Thessalonique. Mais donc Paul est heureux et il va leur écrire une première lettre, bien sûr, pour les remercier d'être fidèles, de rester dans la foi qu'il a évidemment annoncée. Il va rendre grâce à Dieu, il les complimente, bien entendu, parce qu'en fait, c'est quand même pas facile pour ces chrétiens qui subissent des persécutions, et les Thessaloniciens, eux, résistent, parce qu'ils prennent comme modèle Paul. Donc là, dans la première lettre qu'il leur adresse, et le début de cette lettre, eh bien, il les remercie. Mais petit à petit, évidemment, au fur et à mesure, il va aborder quand même d'autres problèmes. Il sait qu'ils se sont arrachés à la colère de Dieu. Alors déjà, ça peut être surprenant. On aimerait bien que vous nous expliquiez ce que ça veut dire, comment ils se sont arrachés à la colère de Dieu, ces chrétiens de cette communauté.
C'est donc une citation que vous faites du verset 10, où Paul raconte que les Thessaloniciens se sont tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Et donc, ces Thessaloniciens ont été délivrés, comme les chrétiens d'ailleurs, de la colère qui vient. Il y a une colère qui vient. Et cette colère, on peut dire de manière générale, que c'est la colère qui va venir pendant le temps de la grande tribulation, pendant le temps où l'Antichrist sera sur la terre. L'Antichrist venant sur la terre, quand l'Église aura été enlevée de la scène terrestre, pour que le monde ait son roi qui aura 3 ans et demi, comme le ministère du Christ, pour finalement asseoir son empire. Il y aura des guerres qui finiront en Armageddon, et cette colère, ça sera finalement tous les mauvais fruits que la terre portera à cause du mauvais comportement de l'homme. Et donc, Jésus nous délivre de la colère qui vient, mais Jésus nous délivre également d'une autre colère, qui est la colère de Dieu au jugement dernier, et qui est une colère plutôt individuelle, qui s'exercera contre toute personne qui aura refusé la grâce. Oui. Hein, voilà. Et donc, ces Thessaloniciens sont délivrés de la colère de deux manières, du point de vue individuel en ayant reçu le salut, et du point de vue collectif, parce qu'ils ne participeront pas à cette grande et difficile période avec l'Antichrist, quand de mauvaises choses se feront sur la terre.
Donc voilà quand même quelque chose qui va pouvoir les rassurer.
Voilà.
Alors par la suite, Paul expose un peu sa mission, qui est d'être celle aussi de tous les chrétiens. Il demande à ce que la doctrine reste telle qu'elle est. Il faut préserver la pureté de la doctrine. Est-ce qu'il y avait donc effectivement des déviances?
Oui, il y a des difficultés. Paul écrit environ en 51-52 après Jésus-Christ. Si Paul est né avec le siècle, il a donc environ 50 ans quand il écrit ces deux lettres. Et il a rencontré le Seigneur depuis environ une grosse quinzaine d'années, 15-18 ans. Et donc, il semble que la première lettre qu'il puisse écrire, c'est celle aux Galates, dans laquelle il parle de liberté chrétienne. Et la deuxième lettre, c'est celle aux Thessaloniciens, dans laquelle il défend un dogme, comme vous venez de le dire. Hein? Et là, si dans Galates, c'est le dogme de la liberté qui est défendu, dans 1 et 2 Thessaloniciens, c'est la certitude du retour de Jésus-Christ pour enlever son Église, et c'est le thème de la première lettre aux Thessaloniciens, et c'est la certitude du retour de Jésus-Christ pour régner dans ce qui est appelé le millénium, le règne de 1000 ans dans le royaume, qui est le thème de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Pourquoi ces dogmes? Eh bien d'abord parce que le ministère de Paul est de compléter la parole de Dieu, comme il le dit aux Colossiens, aux Colossiens 25 à 28, mais d'autre part parce qu'il y a aussi des adversaires, parce qu'il y a des gens qui sont là, soit parce qu'ils sont juifs, soit parce qu'ils s'opposent, soit parce qu'ils ils ont leur motivation personnelle pour le faire, de pouvoir ou de
Oui, c'est surtout les
désaccord,
Juifs, je pense, quand même.
mais c'est surtout les juifs qui tiennent à argumenter contre la doctrine des chrétiens et contre l'enseignement de Paul.
Oui, parce que les Juifs restent attachés à la loi et nient la mort, la résurrection de Jésus pour sauver l'humanité.
C'est ça.
Ouais, c'est ça, d'accord. Alors ensuite, donc, il défend la pureté de la doctrine, mais il demande aussi qu'on se méfie dans la vie de tous les jours, qu'on ne cherche pas à plaire aux hommes, qu'il faut plaire à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois plaire aux hommes et plaire à Dieu. C'est un peu comme si on avait deux maîtres aussi. Hein, il avait parlé aussi, même Jésus avait parlé aussi de l'argent et de Dieu.
Alors moi, je dirais quelque chose qui me touche peut-être personnellement,
Oui.
c'est que c'est plus facile de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Parce que la Bible nous dit par exemple en Hébreux 11,6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, si on fait les choses dans un cadre de foi, alors c'est ça que Dieu nous demande et ça lui plaît. Mais c'est facile de plaire à Dieu parce qu'en fait, Dieu est non seulement objectif, mais il est rigoureux et il est juste. Alors que plaire aux hommes, c'est
C'est
quand
vrai
même une
que
autre
c'est
paire
pas
de
toujours
manches.
très sûr, ni très
Voilà.
certain de plaire aux hommes. Et puis, bon, il y a peut-être en dessous un intérêt d'une part et d'autre qui vont pas être aussi, ça va être aussi net, hein.
Voilà. Et c'est pour ça que Paul a ces expressions du début du chapitre 2 de dire notre exhortation n'a pas eu pour principe ni séduction, ni impureté, et nous parlons, verset 4, comme non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu. C'est-à-dire que Paul n'a pas cherché à donner un message qui aille dans le sens de ce que les gens veulent entendre. On pourrait dire aujourd'hui, nous qui sommes en période de présidentielle, d'élection présidentielle, que nous avons des gens, des politiques qui cherchent à plaire aux hommes et à s'attirer la sympathie de ceux qui votent par des positions qu'on pourrait qualifier démagogiques, démagogues.
Oui.
Voilà, je crois que le message évangélique est un message qui n'est pas démagogue et je trouve que c'est très, peut-être difficile, mais d'un autre côté assez libérateur de se dire, ben tiens, voilà, moi je pense comme ça, je cherche à aimer les gens, mais je ne cherche pas à leur plaire. Hein, voilà, sachant que en principe, le message évangélique devrait leur plaire, mais s'il ne leur plaît pas, alors c'est quand même pas, c'est pas mon affaire.
Oui, alors par la suite, toujours au chapitre 2 et dans les versets 13 et 16, Paul revient sur les persécutions, alors qu'il est lui-même juif, et il le dit, il est quand même poursuivi par la colère de ces juifs, et tout simplement, il va plus loin, il annonce que le salut sera, puisque les juifs le refusent, il sera aussi pour les nations, c'est-à-dire tous les autres pays, et peut-être pas Israël. Israël risque de perdre sa chance.
Oui, c'est vrai qu'on est dans une période de transition, qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre des Actes, dans ces voyages de Paul, notamment dans les trois premiers voyages de Paul, dans lesquels Paul s'adresse aux Juifs et s'adresse aussi aux nations. Et donc, les Juifs sont des gens vers qui il va, vers qui il explique les choses qui touchent au royaume de Dieu. On le voit à la fin de son quatrième voyage, en Actes 28, qu'il parle aux Juifs et aux nations du royaume de Dieu, et qu'aux Juifs, il va leur prendre du temps pour leur expliquer. Et bon, souvent, il est confronté au refus des Juifs. Et ici, dans cette section, du verset 13 à 16, que vous avez cité tout à l'heure, On voit comment est-ce que ces Juifs, hein, ici au verset 15, qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont chassés par la persécution, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés, mais la colère de Dieu est venue sur eux au dernier terme. Et il me semble que là, la colère de Dieu est venue sur eux au dernier terme, est un passage qu'on peut, d'une part, relier à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la colère, c'est-à-dire que là, il s'agit de la destruction de Jérusalem, en 70.
Bien sûr, oui.
Paul écrit en 51-52, et peut-être qu'il a déjà, il est déjà averti par l'Esprit de Dieu qu'il y a quelque chose qui va venir sur le peuple d'Israël.
Oui, oui, oui. Il reste en colère, évidemment, bien, bien ciblée. Alors là, il parle de la parole qui essaie d'être muselée, mais s'il n'y a pas de parole de Dieu, s'il n'y a pas de parole des hommes. Il fallait qu'il y ait des hommes qui arrivent à s'exprimer et qui parlent au nom de Dieu. Il y a eu les prophètes, il y a les apôtres, les disciples, il y a Paul en particulier. Alors évidemment, est-ce que c'est une parole humaine ou est-ce que c'est une parole évidemment divine? Ça peut poser des problèmes. Et peut-être que là, parmi l'auditoire, il y en a qui se disaient, mais qui dit la vérité? Quelqu'un qui est un peu tiède, qui ne sait pas s'il faut suivre Paul ou la synagogue. Et en fait, on peut quand même reconnaître la parole de Dieu aux fruits qu'elle produit.
Oui.
Alors,
oui.
Quels seraient ces fruits?
Moi, je dirais, en premier lieu, avant de parler des fruits peut-être, que nous avons besoin de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, mettons Jésus étant la parole de Dieu, Jésus étant venu, ayant été rencontré par les apôtres Pierre, Jacques, etc., et par Paul qui a rencontré Jésus de manière particulière, alors ce ministère étant donné à Paul de compléter la parole de Dieu par des écrits, alors je crois que on peut reconnaître la parole de Dieu, comme Jésus disait aussi dans Jean 10, « Mes brebis connaissent ma voix ». Mmh. On discerne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et il me semble que la communauté chrétienne, avec le canon des Écritures, a fait ce qu'il fallait pour discerner quelle était la parole de Dieu. Mais par ailleurs, comme vous le soulignez, la parole de Dieu se reconnaît à ses fruits. Et je crois que le fruit de la parole de Dieu, c'est peut-être de nous placer avec Dieu dans une relation réglée. On n'a plus peur de Dieu, on ne craint pas le jugement, puisqu'en fait on sait qu'il a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse le rencontrer avec sérénité. On ne craint pas de le rencontrer parce que finalement les choses que nous avons faites auront été réglées, mais il nous donne aussi les moyens dans sa parole, les fruits de la parole, pour aller avec capacité, avec possibilité, dans un chemin dans lequel il nous appelle à marcher.
Alors, avant de terminer ce chapitre, Paul, évidemment, aurait peut-être, bien sûr, envie de revenir en Thessalonique, mais bon, il va avoir des empêchements et je crois qu'il n'y retournera pas. Et donc, il espère, il annonce que bien, il y aura quand même toujours un rassemblement lors de la parousie. Alors, c'est quoi la parousie?
La parousie, c'est ce moment où les chrétiens se retrouveront avec Jésus. La parousie, ousie, c'est en grec, c'est une forme verbale du verbe être. C'est-à-dire que c'est quand toutes les personnes seront ensemble et visibles. Mmh. On pourrait dire que c'est dans un sens la visibilité de l'Église ou la venue de Jésus, ou l'apparition de Jésus. Et donc, c'est à noter dans cette lettre aux Thessaloniciens qu'il y a 5 mentions de la venue de Jésus. Et cette première lettre aux Thessaloniciens étant découpée en 5 chapitres, eh bien la mention de la venue de Jésus est faite chaque fois à la fin du chapitre.
Oui.
Donc la découpe en chapitres a été faite de manière intelligente. On a cette première mention au chapitre 1 et au verset 10, où il est dit que Jésus nous délivre de la colère qui vient.
Oui.
Au chapitre 2 et au verset 19, il dit que ces Thessaloniciens sont la gloire de Paul et de Timothée devant notre Seigneur Jésus, à sa venue. Au chapitre 3, on retrouve cette notion de venue du Christ au verset 13, où il appelle les Thessaloniciens à être sans reproche devant notre Dieu et Père en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et donc là, on entend qu'on va retrouver les enfants de Dieu, nos parents, nos grands-parents. Moi, je suis content de, à ce moment-là, de faire la connaissance de mes grands-parents,
oui.
que j'ai pas bien, que j'ai pas connus comme adultes. Ils sont morts quand j'avais 3 et 4 ans.
Oui.
Donc forcément, voilà. Au chapitre 4, il est question de l'enlèvement des chrétiens de l'Église,
oui.
hein, qui précédera l'apparition de l'Antichrist, comme on le verra dans la deuxième lettre, avec tout un ensemble de choses de consolation. Hein, chapitre 4, versets 13 à 18. Et puis au chapitre 5, il y a une exhortation qui est paisible mais vigoureuse, hein, au verset 23, « Que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle est fidèle. Hein, » C'est-à-dire qu'en fait, il nous permet de le réaliser. Donc on a différents aspects de la venue
oui.
de Jésus qui nous permettent de l'envisager avec une certaine sérénité, et d'en connaître les différents aspects.
Les différents aspects. Alors, disons, ensuite, on peut passer au chapitre 3, et ça va être le rôle de Timothée. Parce que Timothée va pouvoir revenir, évidemment, dans la communauté. Alors, il va affirmer la foi, et qui va être nécessaire dans les difficultés qui vont se présenter. Et il faut supporter les difficultés présentes et à venir. Alors, ces difficultés sont-elles spirituelles, physiques, politiques ?
Ce sont des... Paul parle avant tout des persécutions que les chrétiens ont subies de la part des juifs. Hein, il en est question au chapitre 2 et au verset 13, au verset 14, pardon. Et il faut savoir que les juifs ont déjà été persécutés et seront persécutés par la suite de différentes manières, comme les chrétiens.
Oui.
Mais les juifs persécutent aussi les chrétiens.
Oui.
Et donc, il y a ici dans cette lettre quelque chose qui revient assez souvent, la persécution de ces juifs. Et par exemple, au chapitre 3 et au verset 3, il dit que nul ne soit ébranlé dans ses tribulations, dans ses difficultés.
L'appel donc, à la confiance.
Il parle des persécutions des juifs. Il en parle au verset 4. Hein, nous vous avons dit d'avance que nous aurions à subir des tribulations. Et donc,
mais ce n'est pas pour les effrayer, ça.
C'est pas pour les effrayer, c'est parce que finalement, comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure, la venue du message évangélique ou chrétien est quelque chose qui va à l'encontre du message qui était donné aux juifs, pour deux raisons au moins. La première, c'est que le juif, du point de vue individuel, est concerné par le salut qui est donné aux chrétiens parce que c'est lui qui a crucifié le Christ.
Oui.
Et donc, ce qui donne le salut aux chrétiens est survenu à cause de sa faute. Et donc, il est quand même repris de manière individuelle.
Oui.
Ensuite, la deuxième chose, c'est que on comprend avec la lecture des lettres de Paul, mais aussi avec les circonstances que vivent ces chrétiens de l'Église naissante, on comprend que si Israël a été le serviteur de Dieu pendant longtemps, alors il y a un moment où Dieu décide de ne plus être servi par Israël, en tout cas avant que cela reprenne, quand ça reprendra dans ce temps où Jésus viendra dans son royaume pour régner. Mais en attendant, maintenant Israël n'est plus le serviteur. Et donc là, vous imaginez, si Dieu vous a confié quelque chose et que maintenant il le confie à d'autres, alors c'est normal. On comprend qu'on puisse être jaloux, hein, d'être dépossédé de ce service, et c'est assez typiquement le cas des juifs.
Oui.
C'est pour cela qu'ils persécutent les chrétiens.
Mais de toute façon, il y avait aussi une incompréhension pour les juifs, c'est parce qu'ils attendaient un messie, roi, matériellement, d'un royaume sur terre.
C'est ça.
Et Jésus, ce n'était pas tout à fait ça.
Alors, les juifs attendaient un messie roi, mais finalement, ils ne le voulaient pas tellement. Ce qui fait que quand Jésus s'est présenté pour être roi, eh bien, ils l'ont crucifié.
Oui, oui.
Le but de Jésus était quand même de venir comme roi.
Oui.
Mais Jésus a été rejeté comme roi, et c'est par son rejet qu'il donne le salut aux nations.
Oui. Alors ensuite, effectivement, on dit que, bon, que ces chrétiens de cette communauté ont la foi, mais pour que leur foi se complète, il faut encore prier. Il devient exigeant, là, Paul, quand même. Non seulement il dit qu'ils sont formidables, mais il leur dit, bon, mais enfin, quand même, il faut prier.
Oui. ça fait partie de ce progrès auquel les chrétiens sont tenus, et le progrès qui fait que finalement les chrétiens avancent en connaissance de Dieu par la prière, avancent en connaissance d'eux-mêmes, en connaissance des autres, en connaissance de ce que doit être l'Église, de ce que doit être finalement quantité de choses dans lesquelles ils sont appelés à mieux marcher. Oui, prier, et
Sans arrêt.
sans arrêt, mais il y a la prière, il y a la sanctification, dans le fait de rechercher la présence de Dieu, et bien d'autres choses. Oui.
Et puis, disons, dans le chapitre 4, on a l'impression que c'est le programme du chrétien.
C'est ça.
Hein? Alors, il y
Oui.
a la persévérance, déjà.
Oui.
Alors, quelques mots sur cette
Oui.
persévérance.
Eh bien, c'est vrai que on pourrait dire que dans les trois premiers chapitres, l'accent est mis surtout sur la difficulté à l'égard des Juifs, sur les persécutions que les Thessaloniciens peuvent connaître. Et à partir du chapitre 4, il y a une vie plutôt individuelle. Hein, et il dit, nous vous prions, nous vous exhortons, il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, il faut que vous abondiez. Donc ça, c'est le progrès dont vous avez parlé. Mais il dit, par exemple, au verset 3, il faut que vous vous absteniez de la débauche, hein, de
Oui.
la fornication. Et il dit, mais voilà, Dieu nous appelle à quelque chose de beau, de réglé, d'important. Et donc, vivons dans ces choses, sachons les comprendre. Et verset 7, il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Donc il appelle à vraiment comprendre ce que c'est que la pureté, ce que c'est que la noblesse, ce que c'est que la noblesse de relation, ce que c'est que la pureté dans l'action. Mais il dit aussi, au verset 8, qu'il y a une question de mépris de l'autre. Il dit que quand on ne méprise pas non seulement l'homme, mais Dieu. C'est-à-dire que dans l'impureté que commettaient ces Thessaloniciens, il y avait l'adultère. Et l'adultère est une faute grave, non seulement commise à l'égard de l'autre, puisqu'on lui prend son conjoint, mais aussi une faute que l'on commet à l'égard de Dieu. Et donc,
Bien
il
sûr.
y a cet accent mis sur finalement une marche qui va honorer Dieu.
Oui. Puis il faut laisser la vengeance à Dieu aussi.
Laisser la vengeance à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Il faut le découvrir, il faut se l'approprier, il faut vraiment envisager que Dieu rend justice. Et ça, c'est un peu un travail que chacun de nous a à faire.
Et encore, dans le programme, il y a aussi accueillir l'esprit. C'est essentiel.
C'est
Parce que
essentiel.
c'est l'esprit qui va nous amener, nous conduire, disons, à remplir toutes les boîtes de ce programme.
C'est ça,
Si on l'accueille pas.
comprendre que finalement, l'Esprit de Dieu est à la source de tout progrès. Et il en parle, il parle pour le progrès d'amour fraternel, il parle au verset 9, il parle de vivre paisiblement au verset 11, de travailler au verset 11, de n'avoir besoin de personne au verset 12, c'est-à-dire mettons, de choses assez simples qui touchent au progrès de chacun et dans lequel l'Esprit de Dieu est vraiment à la base, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui est donné, verset 8, hein, Dieu nous a donné son Esprit Saint, et donc que l'Esprit, celui, nous disait Jésus en Jean 16, qui nous conduit dans toute la vérité. Si donc on est, comment dire, ouvert à la voix de l'Esprit, si on cherche vraiment à l'écouter, alors sans aucun doute, on comprend et on peut mettre en œuvre ce que Dieu nous appelle à faire. Ouais.
Oui, alors il y a deux petits points quand même qui sont intéressants à aborder. C'est que tout simplement, ils demandent que les chrétiens donc aiment leurs frères, quel que soit, disons, quel qu'ils soient. Donc il ne faut pas oublier que les Thessaloniciens étaient souvent des esclaves. Donc il y avait peut-être là une démarche un peu particulière, parce qu'il faut supporter et aimer les maîtres qui pourraient être quand même être un peu injustes.
C'est vrai que dans l'Empire romain, j'ai entendu dire qu'à Rome, par exemple, 80% de la population romaine est esclave.
Oui.
Ce qui est vraiment
Énorme.
considérable, énorme. Et on peut bien penser que dans l'ensemble de ces relations, eh bien, il y a des relations difficiles, parce que quand on est chrétien, comment peut-on avoir une relation qui soit équilibrée ou fraternelle, effectivement, entre maître et esclave?
Oui, puis c'est surtout dans ces couches-là de la population que je pense que le message de Jésus a été entendu. Alors, les Thessaloniciens se posaient quand même un problème qui avait une conséquence matérielle, je dirais presque amusante. C'est qu'ils pensaient que la venue du Christ était imminente et que certains se disaient que c'était plus la peine d'aller cultiver le champ. Et là, Paul quand même leur demande de continuer à travailler.
Eh oui. Eh oui, il leur dit donc dans ce verset 11 hein, du chapitre 4 qu'ils ont à vivre paisiblement et à faire leurs propres affaires et à travailler de leurs propres mains. Et on verra dans la deuxième lettre au chapitre 3 comme ils ne le faisaient pas et certainement pour eux c'était la bonne occasion pour cultiver leur paresse et ne tenaient pas compte du fait que Dieu bénit dans le travail, que le travail. S'il est fatigant, il est aussi très intéressant et que nous avons à trouver notre intérêt là-dedans.
Oui, alors là, vous y mettez une intention quand même un peu dure. C'est pas tout deux fois. Il disait, bon, ben, le Christ va revenir bientôt. Bon, soyons là, prêts à l'attendre. Et non pas à cause de la paresse. Non.
Alors on verra,
On
quand on
verra.
pourra faire leur
D'accord.
connaissance, on leur
Oui.
demandera.
Alors, il y avait quand même des questions beaucoup plus angoissantes que se posaient ces chrétiens de l'époque. C'est dans au chapitre 4 et à partir du verset 13 au verset 18, hein, c'est la résurrection des morts. Là, ça leur posait problème, effectivement. Ils attendent du jour du Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous leur auriez dit, ou ce que dit Paul?
Il faut dire que la question de résurrection des morts n'est pas une question très développée dans la Bible qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il faut aussi peut-être rappeler ou faire savoir que quand Paul écrit aux Thessaloniciens, c'est-à-dire vers 51-52, d'après les connaissances qu'on peut avoir, les évangiles ne sont pas écrits.
Mais oui, il y a eu tout
Et
leur
donc,
sens.
ils n'ont pas de texte biblique. Les lettres de Paul circulent peu. S'il a déjà écrit les Galates, alors la Galatie, c'est une province de la Turquie. Et donc, voilà, tout ce corpus épistolaire doit être fait. Et ils sont surtout nourris par l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de résurrection. Il y en a quelques allusions de la résurrection. Dans le psaume 16, par exemple, tu ne permettras pas à ton saint qu'il voie la corruption. C'est un psaume messianique qui parle de Jésus. Mais cette notion de résurrection est quelque chose de mystérieux. Et Paul va en faire un développement dans ce passage d'un Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 18, comme également dans la lettre aux Corinthiens, qu'il écrira donc pour Corinthe quelques années après. Je crois entre 56 et 57. Et donc, concernant la résurrection, qu'est-ce qu'il faut savoir? D'abord, peut-être regardons de manière un peu générale dans cette première lettre ce que Paul dit à l'égard de la venue de Jésus. D'abord, la venue de Jésus délivre de la colère qui vient.
Oui.
C'est-à-dire que il y a un moment où la terre tout entière sera dans une phase critique, comme si le projet humain sans Dieu amenait à quelque chose de terrible. Mais cette chose terrible ne concernera pas les chrétiens. Il y aura donc une préservation des chrétiens de ce moment difficile qui est appelé par ailleurs la grande tribulation. C'est ce qu'on entend au chapitre 1er et au verset 10.
Oui.
Au chapitre 2 et au verset 19, on entend que quand Jésus viendra, alors il y aura une grande joie et il y aura des couronnes. Des couronnes. Alors, juste peut-être un tout petit mot sur les couronnes. La couronne, c'est quelque chose qui a une grande valeur, parce qu'en général, elle est dans un métal précieux, hein, peut-être de l'or avec des diamants, ça dépend des couronnes.
Oui.
Mais la couronne, c'est quelque chose qui est donné par le Maître, en substance Dieu, mais qui est donné pour que quelqu'un qui est couronné ait des responsabilités. Le roi est couronné pour qu'il règne. Le prince est couronné pour qu'il règne. Et les gens couronnés sont des gens qui ont des responsabilités. Et les chrétiens auront une responsabilité dans le royaume, pendant le règne de Jésus, et une responsabilité qui sera fonction de ce que Jésus leur donnera comme
Donnera de
responsabilité.
faire. Alors moi, je croyais que la couronne, c'était, si vous voulez, la Légion d'honneur pour reconnaître un mérite. Mais c'était tout.
C'est
Voilà,
ça,
on
mais à ce
était
compte-là, c'est une médaille.
reconnu comme méritant.
Voilà, et à ce compte-là, c'est une médaille.
Oui,
Hein?
oui.
Mais quand on a une couronne, on a un titre qui est plus qu'honorifique, on a quelque chose qui a tout un sens dans la fonction à laquelle Dieu nous appelle.
Mmh.
Donc voilà une deuxième chose, chapitre 2. Au chapitre 3, on entend que Jésus va venir avec ses saints, avec tous ses saints, et donc on entend que l'ensemble des chrétiens se retrouvera dans une rencontre, une réunion qui sera magistrale, hein, quelque chose de très intéressant. Et au chapitre 4, on entend comment va se faire cette rencontre, et on entend que ceux qui sont morts ressusciteront. Alors voilà qui est très encourageant, important pour ceux qui ont eu des relations très privilégiées, très étroites avec ceux de leur famille. Et ici, les détails de la résurrection ne seront pas donnés, ils sont beaucoup plus donnés dans le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens.
Oui.
On entend, je le dis très rapidement, que le corps corruptible deviendra incorruptible, que le corps faible deviendra glorieux, que le corps animal deviendra spirituel. Hein, donc il y a un changement, non pas d'état de notre corps, mais un changement de capacité. Hein, ce corps misérable deviendra glorieux. Et donc, oui. On entend par là qu'il y aura un changement assez considérable. Et il est dit au verset 52, je crois, que ce changement se fera en un clin d'œil.
Ah oui.
Hein, la transformation de notre corps se fera en un clin d'œil. On ne sera plus touché par la vieillesse, par la maladie, par la non-compréhension des choses, mais on aura finalement en nous-mêmes, dans notre corps, toute cette gloire dont Dieu aura voulu nous revêtir.
Et tout de suite.
Et tout de suite.
Et tout de suite.
Et ça, à la venue de Jésus. Et donc, je pense qu'on pourra dire tout simplement qu'on sera un cadeau les uns pour les autres à se regarder. On sera heureux de se regarder, de regarder dans l'autre toute finalement la gloire que Dieu a mise dans sa création et notamment dans la création de l'homme.
Et on se reconnaîtra.
Il me semble que oui.
Oui.
Hein, par exemple, au verset 14, il dit que Dieu amènera tous ceux qui se sont endormis par Jésus. Tout le monde sera là. Et je crois que si Dieu amènera tout le monde, c'est pour qu'on ait un peu la suite des relations qu'on a eues avec les gens et qu'on puisse faire perdurer, prolonger ces relations qui sont des relations très heureuses.
Oui. Alors, bon, vous avez parlé des morts qui vont revenir à la vie, mais les vivants, au moment où ça va se passer?
Eh bien, il est dit ici que les vivants, on voit ça au chapitre 4, donc, et oui. Au verset 17, « Nous, les vivants qui demeurons, seront ravis ensemble avec eux dans les nuages à la rencontre du Seigneur en l'air. » Donc, imaginons que si au moment où je vous parle là, la trompette retentit, et que Jésus vient avec la voix d'archange, hein, c'est ce qui est dit au verset 16, alors on peut imaginer que nous allons à sa rencontre dans les nuées, dans les nuages, et que tout à coup, en un clin d'œil, nos corps sont changés en quelque chose, voilà, de définitif, de complet, d'abouti et de glorieux.
Et on retrouve nos morts.
Et on retrouve nos morts qui sont ressuscités.
Et pourrait-on ne pas entendre la trompette?
Eh bien, quand on est enfant de Dieu, on l'entend, et quand on n'est pas enfant de Dieu, on ne l'entend pas.
Et là, ce sera une autre histoire.
C'est une autre histoire, mais on peut dire que pour être enfant de Dieu, il faut recevoir cette conviction de l'Esprit de Dieu que Dieu adresse à tous, mais qu'il appartient à chacun de recevoir une conviction de péché, d'un côté, et une conviction de salut, par ailleurs, où Dieu est le Dieu qui sauve, même quand on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il le fait.
Alors, pour terminer, on arrive au chapitre 5, et du verset 1 au verset 11, c'est l'inquiétude toujours des Samaritains, c'est le moment, ça va se produire quand? Hein, connaît-on la date? Bientôt, ce sera dans notre temps. Y aura-t-il des signes? Voilà, c'est ça, y aura-t-il des signes? Faut-il se préparer?
Et c'est là où Paul dit, au chapitre 5, verset 1, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. » Comme s'il disait, mais écoutez, voilà, on en a déjà parlé,
voilà,
vous le savez. Et il dit, vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Personne ne peut savoir quand est-ce qu'il se passe, nous non plus. Et d'ailleurs, on ne cherche pas tellement, quand on en parle, à dire quand est-ce qu'il va arriver, mais on se tient sur nos gardes, parce qu'on sait que la première espérance, la première attente des chrétiens, c'est d'entendre cette trompette qui fera que selon 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc nous partirons à sa rencontre, et après cela, il y aura quelque chose qui se passera sur la terre. Mais le jour du Seigneur vient comme un voleur, et au verset 3, « Quand ils diront paix, sûreté, Alors une subite destruction viendra sur eux. Cette subite destruction, c'est la colère dont nous avons parlé au chapitre 1 et au verset 10.
Oui.
Donc ici, on voit qu'il y a deux catégories de personnes et que les Thessaloniciens l'ont entendu.
Oui, oui.
Il y a les enfants de Dieu qui attendent paisiblement que Dieu vienne les prendre, mais il y a les autres qui veulent construire pour leur profit, pour leur bien, pour leur sécurité, pour leur paix, un empire, si vous voulez, mais que la construction de cet empire leur amènera une subite destruction. C'est donc le chapitre 5 et le verset 3.
Oui, mais les fils de lumière seront, eux, ravis, comme vous disiez.
C'est ça.
Et effectivement. Donc, alors, il dit ça, disons, pour lui leur demande aussi de s'édifier les uns et les autres pour se donner du courage, parce que vraiment, ils sont dans l'inquiétude, hein, ces premiers chrétiens, là. Et comme vous disiez, il manquait peut-être de base, bien entendu, pour pouvoir réfléchir. Nous, on a des textes, ils ne les avaient pas, hein, c'est ça. Donc, il y a aussi un travail individuel, mais aussi le travail de l'Église.
Il y a le travail individuel à être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. Il y a le travail de l'Église de faire connaître,
Hein,
ces messages de Paul et cette réalité où nous savons que nous avons à finalement attendre quelque chose. On pourrait dire que la lettre aux Thessaloniciens est un peu la lettre de l'aboutissement.
Oui.
On pourrait aujourd'hui, par exemple, se plaindre des gouvernements qui se polient, des gouvernements qui montent, des gouvernements qui s'arrogent des richesses, etc. Mais nous savons que quand le Christ reviendra, alors ceux qui disaient paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux. Mais nous, nous attendons cet aboutissement. Mais tant que l'aboutissement n'est pas là, alors nous avons à être patients, nous avons à travailler. Et justement, ceux qui, ces Thessaloniciens, voulaient arrêter de travailler, ils étaient peut-être découragés par l'esclavage, ils étaient découragés par quantité de choses qui allaient contre leurs intérêts personnels, alors que Dieu nous appelle à travailler, nous appelle à le faire de différentes manières, et en attendant ce moment où les choses aboutiront.
Et vraiment pour terminer, Paul insiste sur « n'éteignez pas l'esprit ».
Il le dit donc dans ce chapitre 5 et un tout petit peu plus loin au verset 20, au verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Il y a dans à la suite de ce chapitre 5 un ensemble d'exhortations. Verset 6, veillons, soyons sobres. Au verset 8, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour pour casque l'espérance du salut. Au verset 11, exhortez-vous l'un l'autre. Au verset 12, connaissez ceux qui travaillent parmi vous. Verset 13, soyez en paix entre vous. Verset 14, avertissez les déréglés. Verset 15, prenez garde, poursuivez toujours ce qui est bon, etc. Verset 16, réjouissez-vous toujours. Verset 17, priez sans cesse. Donc il y a un ensemble de choses qui montrent...
Ils ont quand même des consignes qui sont données. Là.
Voilà, un ensemble de choses qui montrent comment ne pas éteindre l'esprit.
Oui, oui.
Finalement, ne pas éteindre l'esprit, c'est donner à Dieu, il me semble... On pourrait dire la première place dans ce que nous estimons être juste, être normal, la première place pour que finalement l'Esprit de Dieu puisse être présent en nous, puisse nous enseigner, nous instruire, nous faire du bien et nous permettre vraiment de réaliser ce qu'il faut. Et d'ailleurs, Paul va un peu conclure avec le verset 23 en disant « Le Dieu de paix vous sanctifie entièrement ». C'est lui qui fait ce qu'il a à faire, et il va dire donc, puisque Dieu est fidèle, alors faites ce qu'il faut pour que cette fidélité puisse se manifester dans votre vie jusqu'à la venue de Jésus-Christ, et c'est comme ça que se finit cette lettre.
Alors nous passons maintenant à la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Alors Paul est toujours à Corinthe à ce moment-là.
Il ne le spécifie pas dans cette lettre, à ma connaissance, mais voilà, on peut penser qu'il il est toujours dans ce voyage et cette étape particulière. Et il va donc écrire à ses Thessaloniciens, on voit avec Sylvain et Timothée.
L'autre Timothée est toujours avec lui.
Voilà, qui l'accompagne dans ce voyage.
Oui, oui, il n'est pas revenu dans la communauté des Thessaloniciens.
Des Thessaloniciens, tout à fait.
D'accord. Bien. Alors, en gros, dans cette deuxième lettre, s'il fallait, disons, résumer l'essentiel du message, c'est veiller et vouloir qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, donc évidemment rompre avec toutes les idoles, je ne veux bien avoir qu'une tentation à revenir vers les idoles. Hein.
Oui.
Hein. Tenir bon dans la foi, c'est la conséquence, et vivre dans le Christ.
Oui.
Alors, d'abord, il y a évidemment dans le chapitre 1, de 1 à 2, les salutations de Paul, Sylvain et Timothée, dont Timothée on connaît, Sylvain on connaît moins bien.
Alors Sylvain, c'est celui qui accompagnait Paul dans son deuxième voyage, et en acte 14, on voit qu'il était prophète, et qu'il est appelé Silas.
Ah d'accord.
Sylvain ou Silas, c'est la même personne.
Oui, oui. Et donc il est resté évidemment fidèle à Paul.
C'est ça.
Oui, oui. Et puis ensuite, eh bien, dans le chapitre 1 et de 3 à 12, on parle de la foi et l'amour des frères qui doivent rester intacts, hein, malgré les persécutions. Donc là aussi, on voit bien que ce n'est quand même pas dans un climat serein, mais qui seront comptés dans le royaume, alors que les impies, eux, seront condamnés. Là encore quelque chose pour encourager, évidemment, les chrétiens persécutés et malmenés.
Peut-être pour faciliter la lecture de cette deuxième lettre, là aussi, la division en chapitres est assez tardive, hein, puisqu'elle date du XIIIe siècle. Oui. Donc on peut penser qu'il y a eu plus de 1000 ans pendant lesquels les gens ont lu ces lettres sans aucune division,
sans
ni en chapitres,
oui, oui.
ni en versets, les versets ayant été faits par un imprimeur, Robert Estienne, vers 1555, au XVIe siècle.
Et quelle autorité?
Eh bien, il a eu cette idée-là, et comme il était imprimeur, il les a mises, a mis ses versets sur la Bible.
D'accord, oui. Donc, ça facilite aussi des choses.
Et oui, et donc, dans cette lettre, on peut vraiment dire que le chapitre 1er parle de cet événement du royaume. Le chapitre 2 parle de ce qui va conduire pour que cet événement survienne. Et le chapitre 3, de ce qu'il faut faire en attendant que cet événement arrive.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc là, on est au chapitre 1er. Oui. Et comme vous le dites, il y a des persécutions qui sont montrées au verset 4.
Mmh.
Et qui parlent de ces persécutions dont la première lettre a fait mention.
Oui, mais à un moment donné, il dit par exemple qu'il y aura un repos qui sera offert. Alors, quelle est la signification de ce repos?
Eh bien, c'est le repos qui sera quand le Christ reviendra pour régner. Et tant que le Christ n'est pas là pour régner comme roi et comme roi des rois, comme roi de ceux qui règnent, nous est-il dit, alors il n'y a pas de repos. Parce que tous les gouvernements sont plus ou moins...
Il y a des tribulations,
etc.
Effectivement.
Il y a des difficultés.
Il y a des difficultés.
Mais le premier encouragement que Paul va donner aux Thessaloniciens, c'est de leur dire que les persécutions et les tribulations qu'ils vivent, verset 4, correspondent à la dignité qu'ils auront dans le royaume. Dignité, dignitaire. On retrouve la question des couronnes, qu'on a vu au chapitre 2 et au verset 19. Et donc, il les encourage en disant que tout ce qu'ils vivent de difficile, il faut qu'ils tiennent bon parce que ça a un sens et ça aura un sens complètement abouti dans le royaume.
Oui, oui. Mais ce repos n'a rien à voir avec, par exemple, celui des morts.
Non. C'est l'aboutissement, on pourrait dire, des choses.
Voilà, donc, c'est le repos final, les grandes retrouvailles, et plus de tribulations, et la sérénité trouvée.
C'est ça, je vais lire le verset d'ailleurs qui en parle. Hein, il est dit, donc, c'est au verset 7, « Et de vous donner du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus. » Donc c'est quand le Seigneur Jésus sera visible, 2 Thessaloniciens 1, verset 7, qu'il y aura vraiment du repos. On peut dire que aujourd'hui, tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, alors nous ne sommes pas en repos. Tout reste difficile, tout reste fragile,
c'est juste,
tout reste incomplet.
Oui, effectivement, on le comprend. Mais disons que Paul conseille, disons, dans toutes ces tribulations, toutes ces persécutions, de les supporter, de souffrir, avec espérance.
C'est ça.
Mais ça peut être un peu dangereux parce qu'on peut tomber dans un excès et trouver cette expression comme, disons, un propos doloriste, souffrir pour être sauvé.
Voilà.
Et là, c'est un peu dangereux, je trouve.
Absolument, et qui n'est pas bon du tout.
Et je
Parce
trouve
que nous
pas, hein.
n'avons pas à souffrir pour être sauvés, nous avons à recevoir le salut avec gratitude, hein, en remerciant Dieu de nous donner le salut. Mais par contre, nous avons à travailler avec persévérance, avec peine, avec les difficultés que le travail comporte finalement, et surtout quand ces difficultés sont des difficultés politiques, comme celles que vivaient ces Thessaloniciens dans cette région du nord de la Grèce.
Mais ne pas surtout comprendre qu'il faut souffrir pour être sauvé, surtout pas.
C'est ça.
Hein? Parce que souvent, ça a été quand même certaines théories qu'on a pu entendre chez les chrétiens,
Ah oui, absolument.
et qui, je vois, à mon avis, a pu faire des dégâts. Alors, dans le chapitre 2, disons, de 1 à 12, hein, eh bien, c'est une prudence qui est valable aujourd'hui. Ne pas écouter les rumeurs, les mauvais présages, ne pas succomber à de faux docteurs. Or, nous avons des rumeurs, toujours, des mauvais présages, toujours, et les faux docteurs, n'en parlons pas. Bien, mais je pense que vous êtes d'accord. Hein.
Absolument.
Alors, mais moi, je pose une autre question. Comment ne pas se laisser entraîner dans une fausse doctrine, surtout si c'est une majorité. Si une majorité suit cette fausse doctrine.
Eh oui. Et comme quoi, il ne faut pas suivre la majorité, mais il faut chercher à comprendre le texte et à s'en faire une opinion personnelle.
Personnel, voilà. Mais c'est difficile, parce qu'après, pour le vivre,
C'est vrai que c'est
tant que
difficile.
je le lis et que je dis oui, ben, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils pensent les autres ou les autres, d'accord, mais après, pour le vivre, ça peut être difficile.
C'est vrai que c'est difficile, mais c'est possible.
Très certainement, c'est possible. Mais je pense par exemple, comme ça ne nous engage pas, ça ne nous mouille pas trop, disons ben, tout simplement le régime communiste en Russie.
Oui.
Ben, il devait y avoir dans la masse de cette population quelqu'un qui n'était pas d'accord, mais ça aurait été difficile de dire qu'ils n'étaient pas d'accord.
Et oui.
Ouais, même s'il savait que les autres avaient tort et que lui avait raison.
C'est vrai, je pense que on peut bien vivre dans un régime communiste en acceptant le régime, mais en ne vivant pas dans la corruption.
C'est certain. Et
Et
puis,
donc, je crois que Dieu ne nous appelle pas forcément à nous confronter directement au type de vie sociale, hein, démocratie, dictature, royauté, etc. Si on était en royauté, par exemple en France, je ne m'opposerais peut-être pas à la royauté, même si la royauté ouvrait à des abus. Voilà. Mais par contre, je verrais dans la royauté ce qu'il m'est possible de faire.
oui, bien sûr. Mais disons, ben, on peut appeler aussi, disons, c'est l'église du silence, hein,
Oui.
effectivement, qui a toujours existé quand même dans ces régimes-là.
C'est
Mais
ça.
pour sortir aussi quand même de ces exemples outranciers, mais qui ont existé, je crois que dans notre société, c'est peut-être à peu près la même chose, sans qu'il y ait un régime, disons, autoritaire, mais compte tenu de la société actuelle, de consommation, du matérialisme. C'est aussi peut-être difficile de vivre sa foi.
Absolument,
Donc,
c'est difficile.
dans
Et c'est
les.
pour ça que ce cap que proposait Paul aux Thessaloniciens dans cette première et cette deuxième lettre était un cap qui leur permettait de tenir bon parce qu'ils savaient que c'était là où les choses aboutiraient. Je vais un petit peu le décrire, si vous voulez,
Oui,
ce
oui, oui,
cap.
oui, oui.
Hein, au chapitre 1er, il montre au verset 7 la révélation de Jésus du ciel avec les anges de sa puissance. En flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. On est donc là en Armageddon. On est à la fin de ce qui s'appelle la Grande Tribulation. Jésus revient avec les anges et aussi avec l'Église pour, en fait, prendre possession de son royaume. Il anéantira, finalement, ses armées qui seront devant lui. Verset 8, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Verset 9, ils subiront le châtiment d'une destruction éternelle devant la présence du Seigneur. Verset 10, il viendra dans ce jour-là pour être glorifié dans ses saints, donc dans l'Église,
Dans
et
l'église.
admiré dans ceux qui auront cru. Donc ce chapitre 1 présente un événement qui est la venue de Jésus, et au chapitre 2, il montre que, en fait, cet événement n'est pas encore arrivé, mais il nous parle d'un calendrier dans ces 12 versets.
Oui, il y a un planning.
Il y a un planning.
Il y a un planning à suivre.
Alors on y va?
On y va.
Et il dit, verset 2, ne vous laissez pas troubler comme si ce jour du Seigneur était là. Non, non, il n'est pas encore là. Le Seigneur ne règne pas encore. Hein,
Bien sûr.
Voilà. Et il dit, mais au verset 3, que personne ne vous séduise. Ce jour-là ne viendra en aucune manière que, auparavant, l'apostasie soit arrivée. Voilà une première chose. Deuxième chose, que l'homme de péché, qui est l'Antichrist, viendra. Et troisième chose, au verset 6 et au verset 7, que ceux qui retiennent ne le retiennent plus. Donc trois choses qui doivent venir, en fait, avant que le jour du Seigneur ne vienne.
Mais moi, j'aimerais avoir des explications sur ces trois choses.
On y va. La première chose, c'est l'apostasie.
Alors,
l'apostasie, stasie, c'est la station, et apo, c'est l'éloignement.
Oui.
Alors, littéralement, l'apostasie, c'est l'éloignement de quelque chose. Mm-hmm. Dans l'usage, parce que là, on fait l'étymologie, dans l'usage, l'apostasie, c'est de se détourner de la saine doctrine. Hein, oui. C'est l'éloignement de quelque chose qui est accepté, qui est bon, et de la saine doctrine.
Et pourquoi doit-elle venir ?
Elle va venir parce que, quand l'Église aura été enlevée, c'est ce qui retient, alors l'apostasie et l'Antichrist seront là.
Ah oui, d'accord. Alors,
et si vous voulez, ces trois choses, c'est premièrement l'apostasie.
J'allais dire, c'est pour les autres.
Voilà. Ces trois choses, c'est premièrement l'apostasie,
oui.
Deuxièmement l'Antichrist, et troisièmement, ce qui retient l'Antichrist.
Oui.
Et donc, il y a trois choses qui doivent venir avant que le jour du Seigneur ne vienne, c'est-à-dire avant que Jésus soit montré en train de régner.
Alors, l'homme du péché, l'homme de l'impiété, le fils de perdition, Satan, l'Antichrist, c'est la même chose ?
On va en parler.
Ah.
Je voudrais simplement parler de ces trois choses. La première, c'est l'apostasie, on l'a décrite.
Oui.
La deuxième, l'Antichrist. Et la troisième, c'est ce qui retient.
Oui.
Et il y a quelque chose qui retient et qui fait que tant que ça retient, alors l'Antichrist n'apparaît pas. Ce qui retient, c'est l'événement qu'on a vu en 1 Thessaloniciens 4, c'est l'enlèvement de l'Église.
Oui, oui.
Et donc, quand l'Église sera enlevée, alors Antichrist et apostasie apparaîtront. Et alors, à la fin du règne de l'Antichrist et de l'apostasie, alors Jésus reviendra régner avec les siens. Là, les choses sont relativement simples. Peut-être je vais le répéter pour que ce soit bien compréhensible.
Oui, oui. En fait, ce qui retient, en fait, que tout se lâche, si
voilà.
Vous voulez, c'est tout simplement l'enlèvement de l'Église. Tant qu'il n'y a pas l'enlèvement de l'Église, il y aura évidemment, il ne se passera rien sur Terre. Alors, dans ce programme, nous écoutons.
Eh bien, on comprend bien que ce qui retient, c'est l'enlèvement de l'Église,
oui.
Hein, qui est annoncé en 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 19, à 18. Hein, c'est cet événement où nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Et quand, finalement, l'Église, qui est cette puissance de l'Esprit de Dieu pour retenir l'Antichrist, ne sera plus là, alors la société ira dans une décomposition rapide et avancée.
D'accord.
Et donc, c'est l'apostasie et l'Antichrist. L'Antichrist, c'est qui ? Eh bien, c'est un chef, un prince, quelqu'un qui sera à la tête et qui entraînera l'homme dans toute la grandeur de son projet décadent, hein, qui voudra dominer, qui voudra avoir toutes les richesses, qui présentera des fausses sécurités, des fausses richesses, et qui amènera le monde à s'organiser, et l'Apocalypse en parle de manière assez complète,
oui.
Avec la marque de la bête. Hein, ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre.
Mmh.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la carte bleue, par exemple, et l'achat monétique, que quelqu'un qui n'a pas la carte bleue, il ne peut pas acheter sur Internet.
Non, et puis ça se répand.
Ça se répand énormément. Hein. Et donc, l'Apocalypse, qui est écrite par Jean à la fin du 1er siècle, vers 98, nous parle de cette marque qui sera sur le front ou sur la main.
Ah bon.
Eh bien, on sait qu'aujourd'hui,
oui.
Les soldats américains ont ce qui s'appelle l'implant RFID, sur le front ou sur la main, sur la paume de la main, et c'est une puce de la taille d'un grain de riz, et qui permet d'être localisé par les satellites, et qui permettra aussi d'acheter et de vendre. Voilà donc quelque chose qui se précise assez sensiblement.
Il vaut mettre enlevé.
Et il vaut mieux mettre enlevé. Il vaut mieux accepter Jésus comme son sauveur, et faire partie de ceux qui ne vivront pas ce temps épouvantable de la grande tribulation. Mais alors, au verset, donc, dans ce chapitre 2, il nous est dit à partir du verset 7 que si l'iniquité opère déjà, alors au verset 8, elle sera révélée complètement quand ce qui retient ne sera plus là. Et cette iniquité, donc la présence de l'Antichrist, verset 9, est selon l'opération ou l'énergie de Satan. Et en toutes sortes de signes, de prodiges, de mensonges, de séductions. Et donc, on peut dire que dans ce temps-là, celui qui régnera aura énormément de choses. Il aura une puissance démoniaque. Il pourra faire des miracles. Il pourra séduire.
Et c'est ça qui va être dangereux.
Et c'est ça qui va être dangereux. Mais l'Apocalypse nous dit qu'il y aura beaucoup de personnes qui refuseront la marque de la bête. Mmh. Hein? Et donc, il y aura des gens qui la refuseront. Et ces gens-là seront encore sauvés.
Oui, il y aura d'autres possibilités.
On peut dire que Dieu est juste parce qu'il donne cette énergie à ceux qui l'auront demandé. Il dira, c'est le sens du verset 10 et 11, hein, verset 11, « À cause de cela, Dieu leur envoie une opération d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. » Eh bien, le monde aura demandé le mensonge, alors il aura le mensonge. Mmh. Et il verra avec le goût du mensonge s'il l'accepte ou s'il ne l'accepte pas. Mmh. Donc voilà le calendrier, le planning dans ce chapitre 2 du verset 1 à 12. Si je le résume un peu courtement,
oui.
Je vais dire qu'il y a quelque chose qui retient, que ce qui retient, c'est l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, c'est pas l'Église catholique, protestante, orthodoxe, etc., c'est l'ensemble des chrétiens, et que quand ces chrétiens iront à la rencontre de Jésus dans les nuages, alors il y aura un temps de grand malheur sur la terre, parce que l'homme sera livré à lui-même et sera livré à la puissance démoniaque. Et donc, voilà, là, il faudra que ceux qui sont là et qui peut-être entendront ces enregistrements, qu'est-ce qu'on en sait? Eh bien, que ces gens-là résistent et sachent que, eh bien, il faut qu'ils refusent la puissance de l'Antichrist, la puissance de la bête, et qu'ils acceptent d'être mis à mort pour l'amour de Dieu, et que comme ça, ils auront également le salut que Dieu leur donne.
Naïf, nos enregistrements seront détruits à cette époque-là.
Eh bien, on verra.
Et alors, pour conclure?
Pour conclure, à partir du verset 13, il y a donc un ensemble d'applications pratiques. Hein, verset 13, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l'esprit et la foi de la vérité. » Voilà des expressions très denses, très complexes,
bien sûr, oui.
Mais très belles en même temps. « Dieu vous a choisi pour le salut, on est définitivement sauvé. » Mais pour la sainteté de l'esprit, c'est-à-dire savoir travailler, cultiver cette présence de Dieu et cet accueil de l'esprit de Dieu en nous, et pour la foi de la vérité, c'est-à-dire on met notre foi dans la vérité que Dieu nous appelle à recevoir. Et donc il dit, verset 14, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il montre là le cap
pour partager
qui
la
est
gloire
à venir
de Jésus,
pour partager la gloire de Jésus. Et donc il dit, verset 15, ainsi donc frères, demeurez fermes. Hein, vous avez des tribulations, vous avez des difficultés, des persécutions, mais demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, hein, finalement des choses qui ont été dites, ou les enregistrements aujourd'hui, soit par lettre. Hein, voilà. Donc, au chapitre 3, il y a
appel à la prière, encore.
Appel, voilà, à la prière, ou à des choses assez générales, mais quand même un appel entre le verset 6 et le verset 15, à une sorte de discipline fraternelle. Hein, et s'exhorter à, voyez, verset 6, se retirer de tout frère qui marche dans le désordre et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Alors on voit quand même qu'on a des choses à entendre,
à faire
et aussi.
À vivre.
Hein, voilà. Il dit par exemple au verset 7 qu'il y en a qui marchent dans le désordre en ne travaillant pas. Et que Paul, Silas, Timothée n'ont pas marché dans le désordre, mais qu'ils ont été actifs, hein, qu'ils ont fait ce qu'il fallait, verset 8, pour ne pas être à charge à aucun de vous.
Oui, il se donne comme modèle, Paul.
Il se donne comme modèle, tout à fait.
Puis, il donne aussi comme modèle Jésus.
Voilà, absolument. Il est un peu ferme, un peu sec au verset 10, quand il dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». On voit l'apôtre là qui est vraiment très, très radical, mais je crois que c'est bien, c'est important.
Il faut être ferme dans certains cas.
Voilà, et il note au verset 11 que quand on ne travaille pas, alors non seulement on marche dans le désordre, mais on se mêle de tout. C'est-à-dire que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Quand on ne s'occupe pas, alors on est tenté de s'occuper de choses qui ne sont pas bonnes.
Et bien sûr, et de mettre du désordre aussi chez les autres.
Voilà. Et donc, verset 13, frères, vous, ne vous lassez pas en faisant le bien. Hein, donc, il y a une exhortation qui est personnelle, qui est importante, qui est vigoureuse, ne vous lassez pas. Et versets 14 et 15, si quelqu'un n'obéit pas à cette parole adressée dans la lettre, alors dites-le, hein, faites-en la note. Et puis vraiment, ne commercez pas avec lui, n'ayez pas d'échanges, de compromis, de toutes sortes de choses, et avertissez-le comme un frère, sans pour autant le tenir comme un ennemi. Donc là, ce sont des recommandations pratiques qui sont très, très, très heureuses, très fraternelles, mais quand même qui sont solennelles, qui sont vigoureuses
et nécessaires.
Nécessaires. Et Paul va conclure au verset 16 en disant, le Seigneur de paix lui-même, donc il prend Dieu à témoin, hein, vous donne toujours la paix en toute manière. Alors là, il parle des persécutions, mais il parle également de l'attente de ce moment qui va venir, et puis des difficultés qu'il y a avec ces gens qui ne travaillent pas.
Donc on termine là-dessus en rappelant quand même que Paul dictait ses lettres, mais qu'en fait il gardait les salutations et les bénédictions, ce qui permettait d'authentifier la rédaction de sa dernière, de la lettre, de l'épître.